Bonjour. J'espère que vous allez bien en ce beau mois de juillet. Vous êtes courageux d'être là ce matin. J'aime beaucoup prêcher parce que quand je prépare un message, Marion prépare des crêpes. Alors, c'est quelque chose pour moi à chaque fois de délicieux et c'est une petite valeur ajoutée pour moi personnelle qui est vraiment super. Je devrais pas, je sais, docteur. À 17 ans, je ne connaissais pas Jésus, il ne m'avait pas encore sauvé, et j'étais dans une période de ma vie où j'étais un petit peu perdu, et j'ai décidé de m'engager dans l'armée pour devenir un homme, un vrai, et selon les films américains, bien sûr. Et là-bas, au centre de formation où j'ai fait mes classes militaires, il y avait écrit en immense, dans un grand hall où on se rassemblait, tous les soldats, trois mots qui étaient la devise du centre de formation de l'armée. Ces trois mots, c'était rigueur, dynamisme, discipline. Et tous les jours, du matin au soir, on nous rabâchait rigueur, dynamisme, discipline, allez, cours, allez, rigueur, dynamisme, discipline, et fais ci, et fais ça. Ces trois mots, on ne pouvait plus les entendre. Jusqu'à un moment où, une autre étape de la formation, où là on a été répartis en petits groupes, qu'on appelle des commandos, et moi j'ai eu la chance de tomber sur le sergent-chef Nico. Si un jour vous croisez le sergent-chef Nico, vous en souviendrez toute votre vie. Il ferait peur à Schwarzenegger et Stallone réunis. Je vous assure, c'était un homme, il avait un regard qui était aussi impressionnant que ses muscles. Et cet homme nous prend le premier jour, je m'en souviendrai toute ma vie, à part, le petit groupe que nous étions. Et il nous passe en revue, vous savez, comme on voit dans les films où il marche devant les soldats, comme ça, il nous inspecte. Et il nous dit, je vais vous rappeler les trois mots les plus importants. Alors moi, je marmonne à côté de mes camarades, ouais, c'est ça, on sait, rigueur, dynamisme, discipline. Et là, ses yeux se tournent vers moi, pourtant il était à 15 mètres de moi. J'ai pas compris comment il a fait, je me suis dit vraiment c'est un robot, c'est pas possible. Il s'approche de moi à grands pas, les gouttes commencent à couler sur mon front, vous imaginez? Et il se met en face de moi et il dit, je vais vous rappeler ces trois mots. Ces trois mots, c'est discipline, discipline et discipline. Oh là là, je vous explique même pas. Et la discipline, on en a mangé, mais c'était terrible. Mais à la fin de cette formation, notre commando était le meilleur. Il y avait la compétition entre les chefs et nous avions la réputation d'avoir le pire des chefs. Il nous a fait, comme on dit les jeunes, la misère, mais nous sommes devenus le meilleur commando parce qu'avec sa discipline à lui, il nous a cassé toutes nos mauvaises habitudes, nos mauvais réflexes qu'on a naturellement. Il nous a disciplinés pour être un groupe soudé qui s'est comprendre et obéir à un ordre qui sait manœuvrer correctement et être efficace après sur le terrain. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle ensemble de discipline. Alors, je vous prends peut-être un petit peu à contre-pied dans cette période de vacances, mais je voudrais qu'on parle d'une discipline particulière qui est la discipline spirituelle. Alors, je n'ai pas du tout l'intention de me donner un exemple ou de faire la morale à qui que ce soit sur ce sujet-là. Je suis loin d'être un instructeur, moi. Et j'ai entendu une fois une phrase de Henri Briand dans une de ses prédications qui m'avait frappé, où il disait, la clé, enfin, une des clés pour préparer un bon message, c'est quand le sujet du message est un problème dans ma vie et que je dois travailler là-dessus. Alors, je ne sais pas si ça sera un bon message, mais en tout cas, c'est vrai que la discipline spirituelle, je sais que je dois toujours, moi, travailler ce sujet-là dans ma vie, parce qu'il y a des carences, bien évidemment. Nous connaissons tous la vie de Paul, l'apôtre Paul, et il y a un modèle qui nous a laissé de discipline aussi, spirituelle, de fidélité dans son ministère, d'engagement total. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Daniel qui me l'a rappelé il n'y a pas si longtemps. Tous ceux qui combattent, c'est dans 1 Corinthiens 9, 26, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce même Paul, quand il a senti que la fin était proche pour lui, à la fin de son ministère, a écrit deux épîtres à Timothée, ce qu'on appelle les épîtres pastorales aussi, il y a celle de Tite, bien sûr, mais à Timothée, il a vraiment légué son testament spirituel, on pourrait dire. Et j'ose imaginer, si j'ai dans les circonstances où que je vais mourir, que j'ai l'occasion de laisser un testament, ce que je mettrai dans mon testament, ce ne seront pas des paroles en l'air. Il y aura des paroles importantes. Et un des commandements que Paul a laissé à Timothée, qui est capital, c'est celui-ci. Timothée, exerce-toi à la piété. Et ce matin, ensemble, je voudrais qu'on regarde un petit peu ce verset. Qu'est-ce que cela veut dire, s'exercer à la piété? Et puis, après ça, nous allons voir comment concrètement nous pouvons nous y prendre et les finalités de cela. Alors peut-être que ça peut faire légaliste de parler de discipline, il faut avoir des disciplines, il faut faire, il n'y a qu'à, il faut que. On va avoir ça ensemble. Je vous propose, on y répondra plus tard, voir si c'est vraiment, si la discipline est du légalisme. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans 1 Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 7. Timothée 4, verset 7. Alors je vais lire la suite jusqu'au verset 16 pour que nous ayons le contexte un petit peu de ce verset, dans quoi il s'inscrit. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur, au sens de bienfaiteur, dans ce texte, hein, qui est le bienfaiteur de tous les hommes et principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il parle de l'exercice de la piété? Exerce-toi la piété. Alors, premièrement, je vous propose qu'on se pose la question de ce mot, la piété. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous aider à comprendre la piété, je vous lis deux versets. Et je vous propose d'écouter Osée 6 et le psaume 51. Écoutez, Osée 6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Et dans le psaume 51, « Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. » Vous voyez ces deux éléments que nous avons là? La piété, c'est apprendre à connaître Dieu et à me conformer à sa volonté. Ce n'est pas un accomplissement de rites. Il faut faire ça, il faut respecter tel jour, tout ça. L'esprit n'est pas dans la loi elle-même, mais dans la disposition du cœur. La piété se développe dans l'intimité avec Dieu. Elle est une expression de mon amour pour lui, de ma foi. Ma foi va se traduire par des actes, ce en quoi je crois. Le mot piété vient du latin pietas, qui veut dire en fait une vénération faite d'affection et de respect. Et j'étais étonné en lisant cette définition, une vénération faite d'affection et de respect, car elle est très proche en fait, cette définition, de l'adoration. Du fait d'adorer Dieu, de le louer, de lui rendre un culte. Je pense que c'est en ayant une vie pieuse que ma vie sera un culte pour Dieu. C'est ce que disait Paul aux Romains. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » D'avoir une vie conforme à la parole de Dieu, lui offrir ma vie, d'avoir une vie pieuse, c'est ça qui rend un culte à Dieu. Mais le problème dans ma vie, et dans chacune des vôtres, je sais bien, on est tous pareils, c'est qu'il y a en moi encore cette nature de pécheur. Christ m'a sauvé des conséquences de mon péché. Mais tant que je serai sur cette terre, je baigne encore. Je devrai toujours me battre avec cette vieille nature. Et il y a en moi une tension entre le Saint-Esprit qui m'insuffle de vouloir plaire à Dieu, cette partie, moi, ce nouveau Raphaël qui a envie de plaire à Dieu, et puis en même temps, ce péché qui est en moi, qui me tire dans l'autre sens. Et donc, il y a une certaine tension. Le Saint-Esprit, c'est celui, comme je l'ai dit, qui va mettre dans mon cœur ce désir de plaire à Dieu, qui va me faire comprendre la parole, où Dieu va se servir un petit peu comme une flèche qui va toucher mon cœur. Mais mon rôle à moi, quel est-il? Mon rôle, c'est de m'exercer, de m'entraîner, comme le disait Paul à Timothée. Et Paul, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, je pense que vous l'avez tous remarqué, il fait un parallèle entre la vie chrétienne et le sport. Dans la deuxième épître à Timothée, il l'exhorte à poursuivre la course comme un athlète qui respecte les règles et qui court jusqu'au bout. Aux Philippiens, pardon, il explique qu'il courra toute sa vie dans la direction de la perfection, c'est-à-dire de Christ. Son objectif, c'est Christ. La vie est une course, une endurance qui vise le Seigneur. Le mot « exercer » vient du grec « gymnos », qui nous donne « gymnase ». On connaît tous ce mot. Et dans l'Antiquité grecque, s'exercer, c'était quelque chose qu'on faisait nu. Les athlètes couraient tout nus dans les stades, non pas par exhibitionnisme, mais c'est qu'ils ne voulaient rien avoir sur eux qui puisse les entraver pour accomplir de meilleures performances. Et donc, ils couraient nus, toujours, sans rien avoir sur eux qui puisse les empêcher d'arriver à leur but. Hébreux 12, verset 1, Jean-Luc Tabayou nous avait prêché sur ce passage il y a quelques semaines, je vous le relis. « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. » Peut-être que l'un des premiers aspects de la discipline spirituelle, c'est faire ça, c'est rentrer dans le gymnase de Dieu, comme dit Kent Hughes, rentrer dans le gymnase de Dieu et nous dénuder. Nous dénuder de nos fardeaux, de nos péchés. Nous mettre nus devant notre Seigneur. Nous repentir pour faire accomplir cette course chrétienne. Passer du temps dans le gymnase de Dieu. Ce mot « s'entraîner sans la sueur », il parle de faire des efforts, de s'imposer aussi des entraînements, une discipline. Le terme même de « disciple » en fait veut dire quelqu'un qui suit la discipline de. Alors, mais je devais suivre la discipline de mon chef. Aujourd'hui, en tant que chrétien, je dois suivre Christ. Je suis son disciple. Et Kent Hughes, que je vous ai cité, qui a écrit un homme, qui a écrit un livre, qui s'appelle Homme de Dieu, exerce-toi à la piété, qui est très bien, que je conseille à tout le monde de lire. Dans ce livre, il dit ceci: sans de discipline, pas de disciple. Sans de sueur, pas de sainteté. Entrez dans le gymnase de Dieu pour vous entraîner. Dieu me veut acteur. Je ne suis pas une marionnette où il y a le Saint-Esprit d'un côté et le diable de l'autre qui sont là en train de me manipuler et de me tirer comme une poupée dans les deux sens. Non, je suis acteur. J'ai une responsabilité dans ma vie chrétienne. Ma responsabilité, c'est de m'exercer à la piété envers Dieu. Une de mes responsabilités, bien sûr. Sommes-nous prêts à faire des efforts dans ce domaine? Est-ce que notre relation avec Dieu, notre discipline spirituelle, nous coûte? Et moi, je remarque que quand ma discipline spirituelle ne me coûte rien, en fait, il n'y a pas de discipline spirituelle. Quand ça ne me coûte rien, ça ne me demande rien, il ne se passe rien. Je suis loin de Dieu. Et quand on y regarde bien, tout dans notre vie nous demande de la discipline. Et je réfléchissais à ça en préparant ce message. Il y a certes la scolarité, le travail, les relations professionnelles, mais l'amitié aussi. Le couple, l'éducation des enfants, même aller au cinéma. Si je ne suis pas discipliné et que j'arrive à l'heure que je veux, je verrai la moitié de mon film. Il y a toujours une part de discipline. Et dans la vie chrétienne, il y en a une aussi. Qu'est-ce qui vous empêche de vous approcher de Dieu? Avez-vous besoin de vous débarrasser d'un fardeau? Ce matin, si vous sentez que le Seigneur vous parle, réfléchissez à cette chose-là. Et vous savez que vous pouvez le remettre entre ses mains. Alors comment on s'exerce à la piété? On sait qu'il faut rentrer dans le gymnase de Dieu. Ok, l'image est sympa, mais qu'est-ce qu'on y fait dans ce gymnase? Je voudrais vous donner une autre image. C'est que la vie de piété, c'est comme la respiration. On inspire et on expire. On inspire ce qu'on doit inspirer, c'est la parole de Dieu. Comme l'oxygène, en fait, vient nourrir le sang, c'est ça? L'oxygène vient nourrir le sang, apporter de l'oxygène, voilà, enfin les poumons apportent de l'oxygène dans le sang, bref, vous m'avez compris. La parole de Dieu vient nourrir mon âme. Et pour apprendre à connaître Dieu, il n'y a qu'un seul et unique moyen, c'est baigner dans les Écritures. C'est par sa parole que Dieu a choisi de se révéler aux hommes. Il y a la création qui est un témoignage de la révélation, où Dieu se révèle, signe, c'est un petit peu sa signature, on voit des perfections de Dieu dans la création, bien sûr, mais le message spécifique, ce qu'il a voulu dire à chacun des êtres humains sur Terre, nous est révélé dans sa parole. Et il m'est arrivé parfois de discuter avec des personnes, et souvent, j'ai réalisé que c'est, ils parlent de Dieu, mais comme eux imaginent qu'il est. Ouais, mais moi je pense que Dieu ceci, cela, et que Dieu fait comme ci, comme ça. Ou des personnes qui voient des manifestations de Dieu, des instructions de Dieu dans leur vie, par un courant d'air, un oiseau qui se pose sur une branche, ou qui s'envole, ou j'ai raté le papier dans la poubelle, donc la volonté de Dieu, c'est pas que je fasse... Enfin, voilà, des choses complètement abracabrantesques, mais qui, malheureusement, sont fausses. Le moyen que Dieu a donné à tous les hommes sur terre pour se faire connaître, c'est sa parole qu'il a transmise à ses serviteurs. Et il y a un passage très important dans la Bible. Joe parlait de passages comme ça qui sont forts. Il y en a un, c'est 2 Timothée 3:16. Celui-là, il faut le connaître par cœur. 2 Timothée 3:16, Paul dit à Timothée encore une fois: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. quand Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu », le terme qu'il utilise, nous on l'a traduit par « inspiré » parce que c'est ce qui fait sens dans notre, en français, mais le terme en fait veut dire « expiré ». C'est-à-dire que Dieu a soufflé sa parole sur 16 siècles, à 40 auteurs. Il a soufflé sa parole et ses commandements. Et toute sa parole, absolument tout, Jésus dit jusqu'au moindre iota, il n'y a aucune erreur dans la parole de Dieu. La théologie libérale voudrait dire en fait que on pourrait traduire ce verset plutôt comme toute parole qui est inspirée de Dieu est utile. Il y a une légère nuance. Cela voudrait dire que dans la Bible, on croit que certaines paroles vont être inspirées de Dieu, et puis celle-là, ben non. Parce qu'en fait, ça me dérange, ou ça c'est nul, ça a l'air dépassé. Pourquoi la pureté avant le mariage? Pourquoi il n'y aurait que Jésus, on prépare... Voilà, toutes des choses comme ça. Ça, c'est le danger de personnes qui veulent utiliser la parole et qui ne reconnaissent pas l'autorité, la souveraineté de la parole de Dieu. Toute l'écriture porte le sceau de Dieu. Il nous est utile, indispensable, pour apprendre à le connaître et à grandir spirituellement. Quand je lis la parole, c'est Dieu qui m'ouvre son cœur. Dieu se dévoile. Et la Bible, c'est comme une lettre d'amour. C'est la plus belle des lettres d'amour qui nous est laissée. En la lisant, on découvre tout sur Dieu, tout ce que nous avons besoin de savoir. C'est en la lisant que nous savons que Dieu, par sa parole, par son souffle, a créé la terre et les cieux. Que l'homme s'est détourné de Dieu par son choix de vivre sans Dieu et que Dieu l'a jugé en se séparant de lui. Et que l'homme, par ce choix, a fait entrer la dégradation, la mort, le mal dans ce monde qui était parfait. Mais c'est aussi par cette parole que nous savons que Dieu a envoyé son Fils sur terre pour nous sauver. Parce que son amour le pressait et qu'il ne voulait pas nous voir séparés de lui. Alors il a payé à notre place. C'est extraordinaire ce qu'on apprend dans la Bible. C'est comme ça qu'on sait toutes ces choses-là, qu'on peut louer le Seigneur. Ma vision du monde, ma vision de moi-même et de Dieu est renouvelée par la lecture des Écritures. En fait, je crois que je lis les Écritures, mais en même temps, Dieu lit dans mon cœur et me révèle qui je suis, ma nature, mes manquements. Et j'ai aussi des promesses, des assurances, des instructions pour vivre conformément à sa volonté. Et en fait, nous sommes comme une pierre brute, une pierre avec des bouts qui piquent, que l'on tremperait dans un torrent. Vous voyez, après un temps dans ce torrent-là, la pierre prend la forme de l'eau sur elle. Elle devient toute polie. Et bien notre esprit, notre vie entière, la parole de Dieu a le même effet dessus. Dieu nous polie et nous fait à son image. Nous transforme. Alors certains, même souvent, et surtout parmi les plus jeunes, quand j'ai fait des camps ou autres, quand je parlais de ça, de l'importance de la lecture de la parole, ça fait très... vieux jeu, quoi, lire la Bible, tout ça, enfin bon, ça fait vraiment, enfin, pas cool. Et ces jeunes me disent, ouais, mais j'aime pas lire. Moi, j'aime franchement pas lire, c'est pas mon truc. Je dis, ok. Alors écoute-moi, mon jeune, je vais t'apprendre un secret magique. Alors là, il y a les oreilles qui s'ouvrent, il croit que je vais sortir quelque chose de spécial, et je lui dis, fais des efforts. Fais un effort, ouvre-la. Tu vas me dire que si ta chérie t'envoie un mail qui fait 3500 mots, tu diras non, j'aime pas lire, je peux pas lire cette lettre d'amour. Et j'y crois pas un seul instant. Fais des efforts. Rentre dans le gymnase. Lis la parole. C'est une lettre d'amour aussi. Tu vas y découvrir plein de choses et tu vas être transformé. Je pense qu'il faut être aussi pragmatique, savoir planifier des temps dans notre journée pour être disposé, pour baigner dans cette lecture. Il y a aussi, et c'est important de le dire, je pense, dans certaines circonstances de notre vie, on n'est ni disposé, ni capable de lire la parole. Dans des moments d'épreuve, psychologique, physique, des moments de trouble, on aimerait lire. On voudrait, mais on n'y arrive pas. Et c'est là que le légaliste dirait, non, il faut lire, il faut que tu continues de lire, c'est pas bien, il n'y a qu'à, il faut que... Mais si on y regarde bien, la discipline, un entraîneur, s'il a son joueur qui se blesse, est-ce qu'il va lui dire, là, il faut que tu fasses tes 15 tours de terrain ? Non, il va lui dire, soigne-toi. Et si c'est un bon entraîneur comme les dieux, c'est lui qui va te soigner et qui va prendre soin de toi pour te remettre d'aplomb et te relancer dans la course. C'est l'œuvre que fait Dieu dans nos vies. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de chapitres que nous lisons, mais plutôt avec quelle envie on veut les lire. Est-ce qu'on attend qu'il nous renouvelle, qu'il nous encourage, qu'il nous réconforte ? Et si ce n'est qu'un verset, si c'est juste le petit calendrier où il y a un verset, une méditation, qu'on n'est pas capable de plus, très bien. Et qu'un frère vienne lire la parole pour moi, qu'on s'encourage là-dedans, parce qu'on en a toujours besoin. Mais en ayant baigné dans les Écritures, on sait ces choses-là après. C'est ça qui est super. Alors bon, vous l'avez compris, l'importance de la lecture de la parole. C'est l'inspiration. Je fais rentrer la pensée de Dieu en moi. Et il y a l'autre aspect de la respiration. Si on ne fait qu'inspirer, on meurt. Il faut expirer. On expire. Et ça, vous l'aurez compris, c'est la prière. Parler à Dieu. Alors, la prière, on pourrait en parler, on pourrait faire une série de messages toute l'année juste sur la prière. Mais adorer Dieu, le remercier, intercéder, confesser, se soumettre, méditer, toutes ces choses nous permettent de parler avec Dieu. Et au début, on prie, on a l'impression des fois de répéter des choses qu'il faut dire bien... Mais quand on baigne dans la vie de prière, après on parle avec Dieu, on parle à Dieu dans une conversation. Et ça ne se borne pas à dire merci parce que tu es mort pour moi sur la croix et que tu as créé le monde et que tu m'aimes, et pardon parce que je suis mauvais et qu'il y a ci, ça. Il y a beaucoup plus que ça dans la vie de prière. Il y a beaucoup plus de ça. Et pourquoi c'est un commandement de prier ? Pourquoi je dois prier ? Avant tout parce que Dieu m'écoute. Si Dieu ne m'écouterait pas, il n'y aurait aucun sens à ça. Dieu m'écoute. Il est là. Et si je suis trop sec pour prier, ou je me sens trop sale, ou je me sens trop loin, trop désespéré, c'est là, en réalité, que j'en ai le plus besoin et que Christ est le plus disposé à m'écouter. Il est toujours qu'à une prière de distance. En lisant la parole, petit à petit, mes pensées s'effacent et les pensées de Dieu, par son Saint-Esprit, viennent vivre en moi et m'inspirent aussi dans la prière. Je sais quoi demander à Dieu. Je prie conformément à la parole. Et c'est cette respiration qui me fait vivre, qui me fait grandir. Et elle est indispensable. Si on ne respire pas, on meurt. C'est encore évident, mais si on ne respire pas, on meurt. Si nous prions peu, je pense, hormis des exceptions, bien sûr, de situations complexes dans nos vies ou quoi, mais c'est parce que nous planifions aussi peu ou pas de temps pour ça. C'est important aussi, comme pour lire la parole, de savoir planifier des temps à part dans notre vie pour prier. Parce qu'on en a besoin, c'est capital. Si on ne respire pas, on ne va pas bien loin. Prendre des mesures aussi pratiques qui nous aideront. Moi, je sais que j'ai besoin d'un papier où j'écris des sujets de prière et je prie pour ça. Et puis chaque semaine, après, ah ben ça c'est bon, merci Seigneur, je raye, j'en rajoute un et je corrige. Et après, quand le papier ne ressemble plus à rien, j'en prends un autre. Certains ont des carnets, des aides, des choses qui... Enfin voilà, il existe plein de choses. J'ai besoin de passer des moments de communion avec mon Dieu dans la lecture et la prière. Je dois offrir à mon Sauveur les moments où je suis disponible. Dieu ne fait pas grand-chose avec les miettes de mon attention. Dieu aime m'avoir à 100% avec lui. Et le fruit de ça, ça m'a fait penser à... L'autre jour, j'ai acheté une nouvelle lampe et j'ai passé une lampe très puissante à diode, là, une liseuse, et j'ai passé ma main devant et je voyais à travers ma main, en fait, mes os et mes veines. Et donc, j'ai joué pendant un quart d'heure comme ça, c'était marrant. Et ça m'a fait penser à la préparation de ce message. Bon, en fait, c'est Dieu m'éclaire à travers moi. La lumière de Dieu passe à travers moi. Et ça m'a fait penser aussi à Moïse. Vous savez, qui passait du temps avec Dieu pour recevoir la loi, toutes les instructions. Deutéronome nous dit que Moïse parlait avec Dieu. Et quand Moïse ressortait, descendait de la montagne ou ressortait du tabernacle, il brillait. C'était une ampoule. Si bien que les gens, ils devaient se couvrir la tête pour ne pas effrayer les autres. Mais petit à petit, après, il brillait de moins en moins. Et quand il retournait passer du temps avec Dieu, il brillait beaucoup, il ressortait, et voilà. Et c'est ça, en fait. C'est se nourrir de la lumière de Dieu. Alors, quelles sont les finalités de cette parole ? Rapidement, c'est ma dernière partie, après je conclurai. On va répondre à la question, n'est-ce pas du légalisme de dire que chaque jour je dois passer du temps dans la prière, dans la lecture de la parole ? Et j'ai remarqué que souvent, quand on parle de discipline, on a cette peur-là du légalisme. Oula, attention, faut pas être légaliste, fais pas ci, enfin, c'est quelque chose qui nous fait peur, moi aussi. Et c'est ce que je conseille aussi à des frères, et tout ça, au groupe de jeunes, quand ils disent « Ouais, moi, maintenant, j'ai décidé de lire 800 chapitres par jour. » Tout ça, je dis « Oh, attention, calme. » Voilà. Et non, mais on a cette peur-là. Et on doit avoir peur du légalisme, mais aussi du laxisme, je pense, dans notre vie. Et je crois qu'il nous est impossible de savoir si celui qui lit ces 5 chapitres par jour et qui a décidé de s'engager à prier 1h30 par jour, le fait par légalisme ou par discipline. Moi, ça ne m'est pas possible de le savoir. Je ne peux pas lire dans son cœur. En revanche, ce qui va faire la différence, ce sera sa motivation, la finalité. Celui qui veut faire ça par légalisme, il va le faire parce qu'on le dit, il faut, c'est bien, donc je le fais. Et le but de lire et de prier, c'est d'avoir lu et d'avoir prié chaque jour. C'est bien, je suis discipliné. Et là, c'est l'erreur. Parce que le but, c'est pas celui-là, c'est de connaître Dieu. C'est de se discipliner pour apprendre à connaître Dieu. Comme le gars qui s'entraîne dans son gymnase, s'il s'entraîne pour s'entraîner, il n'y a aucun sens. Non, il s'entraîne pour gagner, il y a un but qui est supérieur. Et il s'impose une discipline pour arriver à ce but qui est de gagner sa coupe. Et bien nous, on doit s'imposer une discipline pour apprendre à connaître Dieu. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, dit Paul. Et là, ça, on y arrive comme ça, en étant transformé par la parole, à l'écoute du Saint-Esprit. Et le texte nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Il n'est pas inutile, mais il est utile à peu de choses. « Tandis que la piété est utile à tout. » Là, la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Me discipliner à passer du temps avec mon Dieu me permet de rentrer pleinement dans sa volonté pour moi aujourd'hui et dans l'avenir, tous les jours de ma vie, de vivre les promesses de Dieu, de vivre cette espérance qui est vraiment là. Vous avez remarqué, dans ce texte, il n'est pas question du passé. Et c'est quelque chose, bon, sur le moment, je suis passé sur le texte comme ça, mais après, en y réfléchissant, il parle du présent et de l'avenir. Ce sont deux temps très importants, mais il ne parle pas du passé. Et en fait, le passé, pour un chrétien, c'est un temps qui compte pour rien. Parce que le passé, il est entre les mains de Christ. Notre passé, peu importe où l'on est aujourd'hui, ce matin, dans notre vie, ce qu'il y a derrière nous, aujourd'hui, on peut retourner dans les bras du Seigneur. Ça, c'est la grâce de Dieu tous les jours. Nous sommes sous sa grâce et nous pouvons être lavés et rentrer à son école. Dans ce texte que l'on a lu, j'espère que vous avez fait attention, il y a aussi, il y a certes la dimension verticale entre nous et Dieu, mais il y a aussi une dimension horizontale entre nous et les autres. Et Paul entremêle les recommandations personnelles et celles sur le ministère. Et je pense que c'est tout à fait voulu, parce que mon ministère va découler de ce que je suis en Christ. Ma vie avec Dieu va me façonner un caractère pour le servir et me permettre d'utiliser mes dons. L'autre chose dont Paul parle à Timothée, c'est d'être un modèle. Il n'est pas question de l'âge de Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi, sois un modèle. L'âge ne compte pour rien aux yeux de Dieu. Son, notre CV, notre carte d'identité, Dieu s'en fout. Que cela fasse 20 ans que vous êtes chrétien ou chrétien depuis 2 ans, vous pouvez être un modèle rempli du Saint-Esprit pour l'autre. On a le même esprit. Lui, il date de toute l'éternité. Hein, ce, on ne peut pas le dater. Dieu regarde à notre cœur uniquement. Que l'on soit jeune ou que l'on ait un passé trouble, en nous remettant entre les mains de Dieu, en étant conduit par son esprit, en ayant une vie forte avec lui, on peut devenir aussi un modèle. Chacun d'entre nous peut devenir un modèle. Ça, c'est Dieu qui transforme des vies. C'est son business, j'ai envie de dire aussi. Paul, dans la deuxième épître aux Timothée, juste avant le passage que l'on a lu de 2 Timothée 3,16, il lui dit aussi, par rapport toujours à cette notion de modèle, « Reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. » Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance. En effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, de qui parle Paul? Qui a été ce modèle, ces modèles pour lui? Avant tout, sa mère, à Timothée, et sa grand-mère, qui se sont converties lors du premier voyage de missionnaire de Paul, et ce sont elles qui ont été les premiers modèles pour Timothée. Ensuite est venu Paul et les autres collaborateurs, les autres chrétiens qui l'ont enrichi. Mais ses premiers modèles ont été sa mère et sa grand-mère. Et en ce sens, moi je suis comme Timothée. Mes premiers modèles ont été ma mère et ma grand-mère. Des femmes que j'ai vues tenir fermement à Dieu, malgré tout ce qui pouvait arriver dans la vie, les choses belles comme les choses plus difficiles. Mais des modèles de piété qui ont été un témoignage pour moi et pour mes frères. C'est une bénédiction. Et tous les parents peuvent être ces modèles. Un homme, une femme, peu importe qui l'on est, on doit, notre but aussi, c'est d'être un modèle pour l'autre. Timothée a reçu un modèle, lui-même doit être un modèle pour les autres. Chaque génération doit être un modèle pour la génération d'après. Et lui apprendre à être fidèle à Dieu, à rentrer dans ce gymnase. Ce n'est pas dans une église que la responsabilité, quelqu'un, un adulte se convertit, bon, bah, c'est un ancien de prendre soin de lui, de le visiter, de lui apprendre à prier, à lire la parole, ou c'est un petit jeune, il passe au groupe de jeunes, bon, bah, ça, c'est pas ma responsabilité, c'est celle des responsables du groupe de jeunes. Non, c'est faux. Tous, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Et je vous encourage vraiment, et c'est ça la vie d'église, et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas vivre en dehors de l'église, c'est qu'on a besoin de modèles, et on a besoin des frères et sœurs qui viennent nous voir, qui nous enseignent comment prier, comment lire la Bible. Et moi, j'encourage vraiment chacun à aller vers l'autre, un plus jeune dans la foi, et dire comment tu vas. Tiens, c'est de dire un jour, on se fait un truc ensemble et puis on prie et on lui apprend un petit texte de la parole. On est apte à ça, pas besoin d'être un théologien. Quand Christ vit en nous, on va rayonner auprès de l'autre et on peut lui enseigner les bases de la vie chrétienne. Lui montrer comment prier, comment se repentir. C'est très important. Croyez-moi, quand on a un jeune dans la foi et que quelqu'un vient nous ouvrir son cœur, ça fait vraiment mais extrêmement plaisir. En étant tout jeune chrétien, un jour, il y avait un orateur dans un camp. Et c'était un gars super. Et je suis allé le voir à la fin. Et je lui commençais à lui poser des questions théologiques et tout ça. Et il m'a dit, allez, viens avec moi, on va se balader sur la plage. C'était à Saint-Lunaire. Et il m'a dit, moi, je ne vais pas répondre à toutes tes questions de théologie, mais ce que j'aimerais, c'est t'ouvrir mon cœur. D'accord, ça veut dire quoi? Et on a parlé d'homme à homme. Je lui ai parlé de mes difficultés, de mes interrogations de jeune chrétien, sur ma vie future, tout ça. Il a répondu à mes questions, il m'a beaucoup écouté, il m'a partagé aussi, j'ai vu que c'était aussi un homme, comme moi, super. Et puis à la fin, il m'a pris dans ses bras. Alors moi, j'étais tout raide, mal à l'aise, il m'a pris dans ses bras et il a prié pour moi. C'est une des choses qui m'a le plus nourri dans ma vie spirituelle. Un frère qui m'a serré dans ses bras, qui a prié pour moi. C'était excellent. Reynald, au tout début, il me faisait des études, je disais, ah, c'est super ce que tu fais pour moi, merci beaucoup Reynald. Il me disait, ah, tu verras, dans quelques temps, tu feras ça pour d'autres. Moi, je pensais que ça serait dans 30 ans. C'est super. Pour conclure, je voudrais vous montrer juste ceci. Ça, c'est la vie avec Dieu. On a parlé de discipline, de gymnase, d'entraînement, mais il y a l'autre facette, c'est ça. C'est moi qui prends un temps avec Dieu pour boire un café. Quand on prend un café avec un ami, on discute, on partage. C'est un bon moment. Et la piété, c'est ça aussi. C'est passer un temps à part pour Dieu, où il n'y a que lui et moi. Et où j'ai envie d'apprendre de lui. Et on échange, on parle. Et à la tienne, ouais, à la tienne. Et voilà. On passe du temps ensemble. Et pendant ces temps de vacances où peut-être on va avoir plus de plages de repos, je l'espère pour chacun d'entre nous, je vous encourage à prendre un nouveau départ si vous en avez besoin, dans ces temps de communion avec le Seigneur, vraiment. Je prie. Si vous sentez que vous avez besoin de vous remettre entre les mains de Dieu, vraiment, n'hésitez pas. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que nous pouvons vivre sous ta grâce, Seigneur, où tu ne te lasses pas de nous pardonner, où rien ne peut ébranler l'amour que tu as envers nous, Seigneur. Tu nous as sauvés en connaissance de cause. Tu sais quelles sont nos vies, Seigneur. Tu sais comment je suis quand je suis seul chez moi. Toi seul, à ce moment-là, me connais. Et Seigneur, j'ai besoin de toi, nous avons tous besoin de toi. Que tu nous renouvelles, Seigneur, par ton esprit. Montre-nous, Seigneur, apprends-nous par ta parole comment nous conformer, Seigneur, à ta volonté, comment nous saisir pleinement de tes promesses pour aujourd'hui et pour demain, nous attacher à toi, Seigneur. Montre-nous comment nous devons nous discipliner, Seigneur. Aide-nous à nous débarrasser aussi de ce qui pèse sur nos épaules, de ce qui peut nous entraver dans cette course avec toi, Seigneur, à avoir le courage et la foi pour t'abandonner cette chose et t'accorder ce qui t'est dû, Seigneur. Une vie qui soit une vie de culte, vraiment, qui te rende un culte, qui te glorifie, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir nous transformer à ton image. Que tes pensées deviennent nôtres, Seigneur. Enseigne-nous, s'il te plaît, et fais briller ta lumière en nous. Amen.